Le Palika ne fait plus partie du FLNKS. La décision a été prise le week-end dernier lors du 50e congrès du parti à Bouraï. Charles Wachetin, l'un des porte-parole du Palika, était ce midi l'invité de Transparence, extrait dans ce journal. Naïma Mouchos sur Radio Rythme Bleu, elle était notre invitée à 7h30. Elle est longuement revenue sur les discussions en cours sur l'avenir institutionnel et ses échanges avec les groupes politiques du congrès autour de l'accord de Bougival. Dernier jour de visite pour la ministre des Outre-mer. Ce matin, Naïma Mouchous s'est rendue au lycée Petro Atiti, mais aussi dans le quartier de Tindu. La ministre qui a également rencontré les maires de Calédonie. Page spéciale dans cette édition. Un vide-grenier pour la bonne cause. Ce sera demain l'hippodrome Henri Millard. Le Rotary Club Nouméa du Cos Boulari se mobilise pour les enfants atteints de déficience visuelle. Et puis comme chaque vendredi, nous passerons en revue les principaux rendez-vous sports du week-end en Calédonie, en métropole et dans le monde. En Calédonie, coup de projecteur ce soir sur le 7e tour de la Coupe de France. Et demain, l'AS Magenta qui recevra Mulhouse. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. Le Palika quitte donc le FLNKS. C'est l'information politique du jour en Calédonie. La décision a été prise à l'unanimité lors du 50e congrès qui s'est tenu à Téné le week-end dernier en présence de 400 militants. Un congrès qui marque un tournant. Le parti estime que la stratégie du FLNKS nouveau ne lui correspond pas. Judicaël Séléphène, porte-parole du Palika.
Au regard de ce qu'on a cheminé comme parcours et ces dernières années, et au vu des positions et des décisions prises par le FLNKS nouveau, on a considéré que nous ne partagions plus les modalités pour accéder à l'indépendance, a fortiori les positions qui ont été prises par la gouvernance du FLNKS aujourd'hui ne nous permettent plus d'accéder à l'indépendance et à la pleine souveraineté. Donc, au regard des décisions que nous avons prises de s'inscrire sous la bannière unie dans le cadre des discussions, on a abouti à un accord politique, chose qu'on n'a pas pu obtenir en étant au sein du front lors des discussions précédentes. Donc ce n'est pas une décision en opposition avec le FLNKS, c'est tout simplement un objectif de clarté qui est visé. C'est aussi l'opportunité d'inscrire les nouvelles générations dans une nouvelle voie pour le portage de l'objectif d'indépendance, une nouvelle loi renouvelée.
Et le Palika qui demande à l'État des précisions sur l'accord de Bougival, notamment en matière de transfert de compétences régaliennes, d'autodétermination et de corps électoral pour la mandature 2031-2036, si jamais les conditions d'accession à la nationalité calédonienne ne sont pas adoptées.
Il y a certains éléments qu'il faudra préciser et qu'il faut compléter pour permettre aux Calédoniens de mieux appréhender, de mieux s'imprégner de cet accord, pour réussir la consultation d'approbation. Donc, les militants, les citoyens ont demandé de plus de précision sur un accord, un document qui est très politique. Et donc on s'engage aujourd'hui dans une séquence où il faut écrire juridiquement et constitutionnellement cette loi. Donc il y a besoin de préciser encore un peu plus sur qu'est-ce qu'il advient à la sortie des transferts de toutes les compétences. Quel est l'acte juridique qui consacre la Nouvelle-Calédonie dans le cadre de la pleine souveraineté. Sur les modalités de transfert, en tout cas sur les mécanismes, que se passe-t-il si les Calédoniens ne prennent pas la responsabilité? Quel est le rôle de l'État?
Le Palika qui s'engagera sous la bannière unie pour les municipales et surtout les provinciales dans la perspective de la mise en œuvre de la loi fondamentale durant la mandature 2026-2031. Le Palika sort du FLNKS, une décision sur laquelle est revenu Charles Wachetin, l'un des porte-parole du parti, qui était l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Mais il tient à préciser les conditions de ce retrait du Palika, alors que le président du FLNKS, Christian Théin, avait demandé une clarification.
Ce n'est certainement pas suite à l'injonction du nouveau président du FLNKS. On était déjà en dehors du FLNKS dès l'année dernière. Nous, on considère qu'il faut donner de la clarté, non seulement à nos militants, mais aussi à ceux avec qui on discute.
Il faut de la clarté, selon Charles Wachetin, qui rappelle que le Palika a été créé en 1976 et qu'il a longtemps été membre de la coalition indépendantiste.
Ça fait 41 ans qu'on est dans le FLNKS avec les résultats aussi qu'on a engrangés, que le FLNKS a engrangés. Pour nous, il faut qu'on préserve les acquis aussi de notre engagement au sein du Fonds. Ce qui se passe là, on nous met à mal aussi à ces acquis. Donc 41 ans sur 50 ans d'existence, c'est pas rien. Et donc on considère que la sortie du FLNKS s'impose à nous. Parce que la stratégie aujourd'hui défendue, notamment par le FLNKS nouveau, ne correspond plus à celle qu'on portait quand on était au sein du FLNKS créé en 84.
Et l'une des raisons de la sortie du Palika, ce sont aussi les violences destructrices de mai 2024.
On l'a eu dit, peut-être qu'on n'a pas été aussi réactif qu'on l'aurait dû le dire. Mais on ne construit pas un pays par le biais de la destruction. C'est quand même aller brûler les écoles. C'est quand même des bâtiments symboliques. Pour nous, c'est notre génération où à l'époque, on ne savait pas comment aller à l'école. L'école publique, qui était plus ou moins interdite aux Kanaks, ben c'est les enseignements privés qui donnaient de l'instruction aux jeunes Kanaks.
Une interview de Charles Wachetine, porte-parole du Palika, qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Vous pouvez également l'écouter ou la visionner en podcast sur notre site internet. J'ajoute qu'une autre composante du FLNKS réunit son congrès ce week-end. Les délégués et militants de l'UPM sont réunis jusqu'à dimanche à la tribu de Goyeta, Ponérihouin. Au cœur des travaux, les discussions sur l'avenir institutionnel, mais aussi, on l'imagine, un débat sur la volonté du parti de quitter ou non le FLNKS. Je suis convaincu qu'il y a un chemin, déclare Naïma Moutchou. La ministre des Outre-mer était ce matin l'invitée de Radio Rythme Bleu. C'est la première fois qu'elle s'exprimait publiquement depuis son arrivée sur le territoire et elle a apporté un certain nombre de réponses en affirmant vouloir tenir un cap d'autorité et de fermeté. Naïma Moutchou a notamment tenu des propos très clairs à l'égard du FLNKS, Jean-François Bodin.
Oui, la ministre fait le constat que le FLNKS ne veut pas de Bougival, mais que le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble. Plus globalement, elle est revenu sur la mission que lui ont confiée le président de la République et le Premier ministre. Il s'agissait, dit-elle, de retisser le lien du dialogue et de tenir un cap d'autorité et de fermeté. Elle affirme aussi qu'elle veut lier le plan institutionnel et le plan économique et social. Et concernant sa méthode, elle reconnaît qu'elle a surtout écouté.
Vous avez raison, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de l'écoute. Je suis venue modestement sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, que je connais. Je suis venue en 2018, ça fait très longtemps que je travaillais aussi sur ces sujets. J'ai pas découvert le territoire en sortant de l'avion la semaine dernière, donc je savais que ce serait difficile et la semaine n'a pas été simple. Mais j'ai entendu tout le monde. Toutes les forces politiques sont venues à la table, principalement dans le cadre de bilatéral, donc on s'est vus, on a échangé les yeux dans les yeux. Moi, j'ai posé un cadre de méthode. J'ai dit que je n'avais pas de temps à perdre et que j'étais là pour écouter, mais alors dans ce cas-là, il faut un dialogue vrai et un dialogue franc. Qu'on se dise les choses. Est-ce que l'accord de Bougival tient encore? S'il ne tient pas, pourquoi? J'ai besoin d'explications, j'ai besoin de comprendre et de savoir ce qui bloque pour avancer. Et on a fait ce travail-là, y compris avec le FLNKS.
Depuis son arrivée, la ministre a tenu des réunions bilatérales, mais elle a aussi reçu ensemble tous les groupes politiques, à l'exception du FLNKS. Pour elle, il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS et c'est une impasse qu'elle ne peut accepter.
Ce qui ressort des premiers échanges que nous avons eus, c'est que le FLNKS veut rester en dehors de l'accord de Bougival. Le mot même de Bougival crispe la délégation que j'ai reçue. Clairement, c'est la trajectoire de l'indépendance et donc il n'a pas la place au compromis dans ces conditions. C'est d'autant plus difficile qu'à ce stade, ceux que j'ai rencontrés n'ont pas de mandat de négociation. Donc il y a une forme d'impasse au sein du FLNKS. Mais c'est une impasse que je ne peux pas accepter en ce qui me concerne. Parce que la Calédonie ne peut pas rester immobile. Il y a des enjeux majeurs. Ce qui va se passer en 2026, c'est un tournant pour les Calédoniens, notamment sur le plan économique et social. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, c'est le message que j'ai fait passer. Le statu quo n'est pas possible et les autres forces politiques le comprennent. 5 sur 6 aujourd'hui tiennent à Bougival.
Et quand on rappelle à Naïma Moutchou qu'elle avait déclaré qu'elle ne voulait pas faire sans le FLNKS, elle tient à préciser les choses.
La phrase complète, et c'est important, je ne veux pas faire sans le FLNKS, pourvu que le FLNKS ne fasse pas sans les autres. C'est ça la méthode du consensus, et en particulier en Calédonie. Donc, j'entends moi que le FLNKS ne veulent pas de Bougival, mais je n'ai pas de contre-proposition aujourd'hui, je n'en ai pas. Sauf une trajectoire d'indépendance, mais qui donc ne s'inscrit pas dans un compromis. Qu'est-ce qui s'est passé à Bougival et pourquoi c'est important Bougival? Parce que vous avez des forces politiques qui ne se parlaient plus, qui ont décidé à un moment donné de se réunir, et de mettre les choses sur la table, et de faire un pas de côté. On n'avait pas vu ça depuis longtemps quand même. Et chacun a accepté des négociations, des concessions, alors que on pourrait se dire les ambitions elles sont contradictoires. Vous avez des aspirations indépendantistes d'un côté et puis des gens attachés à la République de l'autre. Mais oui, mais elles ont accepté de s'ouvrir au dialogue et d'accepter que celui qui était en face ne sorte pas humilié de la séquence. C'est comme ça qu'est né Bougival et c'est cet esprit que je veux préserver et continuer à porter. Donc je ne peux pas accepter qu'une partie me dise il y a rien. J'ai pas de proposition. C'est l'indépendance ou rien. Ça n'est pas entendable vis-à-vis de la méthode qui est celle du consensus ici et vis-à-vis des pas qui ont été faits par les autres.
Face à l'attitude du FLNKS et à son absence de proposition, la ministre indique que la porte reste ouverte, mais elle affirme aussi que l'on ne peut pas perdre de temps.
La porte, elle est ouverte. C'est ce que j'ai dit au FLNKS. La porte est ouverte. Aujourd'hui, demain, après-demain, dans 2 mois, la porte est ouverte. Ils peuvent prendre le temps de la réflexion, s'organiser. J'imagine qu'il y a des échanges en interne. À un moment donné, s'ils veulent revenir dans la discussion, la porte est ouverte. En attendant, il faut avancer. Encore une fois, parce qu'on ne peut pas se permettre de rester dans un statu quo. Je rappelle les défis majeurs que les Calédoniens devront affronter dans une situation économique dégradée. On ne peut pas perdre de temps. Et donc, le blocage de l'un ne doit pas bloquer l'ensemble.
Le blocage de l'Inde ne doit pas bloquer l'ensemble, affirme la ministre des Outre-mer, qui a de nouveau reçu les forces politiques cet après-midi et qui a également revu le FLNKS en bilatéral. La ministre a également été interrogée sur la situation catastrophique de l'économie calédonienne et sur les réponses qu'elle peut apporter aux acteurs économiques et sociaux. Pour elle, il y a deux choses.
Il y a les urgences immédiates pour la Calédonie. Il y a des choses qui vont se dérouler dans le cadre du projet de loi de finances, donc assez vite. D'ailleurs, la semaine prochaine, je suis à Paris. C'est pour ça que je pars là. Mardi, je suis à Paris pour l'examen des crédits budgétaires Outre-mer, notamment Nouvelle-Calédonie. Mais surtout le plan de relance à venir. C'est un plan de relance massif. Hein. Le Premier ministre avait parlé de sursaut économique et social, de choc de confiance pour le territoire. C'est pas rien.
Quelles aides peuvent être déjà annoncées ou sont prévisibles ?
C'est un plan qui continue de se construire en fait. Hein. Parce que c'est pas simple. C'est un plan qu'on veut voir se réaliser sur plusieurs années. Donc il y a tous les sujets à l'intérieur. Il y a les projets structurants qu'on pourra porter en termes d'infrastructures. Il y a la question fiscale. Il y a tout le sujet du nickel, de la stratégie qui doit être mise en œuvre. Puis après, il y a les plus petits projets, site par site, territoire par territoire. Les provinces ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes problématiques. Donc c'est un travail long cours. Mais c'est important. C'est pas quelque chose d'évanescent.
C'est la raison pour laquelle Naïma Moutchou a souhaité la présence dans sa délégation de Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle. Pour la ministre, le volet institutionnel et le volet économique et social sont les deux jambes qui vont permettre au territoire de se redresser. Elle affirme que l'État n'abandonnera pas la Nouvelle-Calédonie et que les élus seront aussi au rendez-vous avec les réformes qui doivent être faites. Mais elle indique ne pas faire de chantage aux élus.
C'est pas vous faites des réformes et on verra. Si on vous aide, d'abord, le temps de faire les réformes, pardon, hein, mais tout ça se sera écroulé. Donc non, on n'a pas le temps. Non, bien sûr, on viendra en appui la Nouvelle-Calédonie, puis en parallèle, les élus engageront les réformes, parce que la Calédonie, c'est pas un territoire qui veut faire la poche de l'État. C'est pas un territoire qui vient, vous voyez, nous secouer la manche en nous disant on veut de l'argent, on veut de l'argent. Pas du tout. La Calédonie veut pouvoir vivre de manière pérenne sans venir toquer à la porte à Paris. Ça, je le sais, tout le monde me l'a dit et je l'ai vu. Et je le vois depuis des années. Donc je sais que le territoire calédonien veut s'en sortir. Je sais que les élus aussi. Nous, on est là pour accompagner, pour donner des expertises si besoin. Et en fait, c'est un tout. Et ce que je veux dire, c'est que l'État sera présent.
Et concernant la filière nickel, la ministre déclare qu'il y a une stratégie à redéfinir et elle souhaite un grand plan pour le nickel en affirmant que les lignes sont en train de bouger. Elle rappelle à ce sujet sa rencontre avec Paul Néaoutine. C'est pour elle un signe qu'il y a une petite mécanique qui est en train de s'enclencher. La ministre des Outre-mer confirme par ailleurs qu'il n'y aura pas de coup de rabot dans la défiscalisation et elle estime qu'avec une autre méthode, on peut arriver à faire des miracles. Interrogée enfin sur l'ordre public, elle déclare que l'on doit la sécurité aux Calédoniens.
Ma mission aussi, c'est de tenir ce cap. Moi, je suis attachée à l'autorité de l'État. On ne fait rien dans le bazar, on ne fait rien dans le désordre. Il y a des règles. Les règles, elles doivent être respectées. On peut manifester, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. On ne franchit pas la ligne rouge. Deux gendarmes ont été tués. Ça, c'est encore dans notre chair. Donc, la fermeté, c'est non négociable et ce sera tolérance zéro.
Une interview de Naïma Moutchou qui est à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
Et cette dernière séquence politique pour Naïma Moutchou, arrivée lundi dernier, la ministre des Outre-mer quittera la Calédonie la nuit prochaine. Elle a eu cet après-midi une série d'entretiens. Elle a d'abord reçu le FLNKS en bilatéral et depuis 15h30, elle réunit les représentants de tous les autres groupes politiques pour une séance plénière qui est toujours en cours. Il est 18h sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. Nous évoquerons la suite de ce dernier jour de visite de la ministre des Outre-mer en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
C'est la fête chez Auchan Quefferie et Auchan Auteuil. Du 3 au 30 novembre, on célèbre nos 2 ans avec un grand jeu anniversaire. 3 millions de francs de cadeaux à gagner et un super caddie surprise de 55 000 francs chaque jour et par magasin. Et en plus, profitez de bons d'achat, de remises en cagnottage et de prix promo tout le mois. Auchan Quefferie et Auchan Auteuil, 2 ans et toujours plus pour vous.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Info soir, Lionel Sabot.
Et après son passage dans nos studios, la ministre des Outre-mer s'est rendue ce matin à Rivière-Salée, au lycée Petro Atiti, lycée qui, je le rappelle, a été pillé, saccagé, incendié à plusieurs reprises lors des émeutes de mai 2024 et qui avait dû fermer ses portes. Aujourd'hui, quelques élèves ont retrouvé leur classe malgré les nombreux travaux encore en cours dans l'établissement. Des travaux présentés, détaillés à Naïma Moutchou par le proviseur de l'établissement, Éric Vallon.
Alors on est dans la deuxième phase, c'est-à-dire que le bâtiment qu'on voit derrière moi, le bâtiment d'enseignement général, Le Santal est en reconstruction-rénovation, ainsi que la cantine et l'internat. Et donc, ils nous seront livrés pour la rentrée 2027. Cette année, comme pour l'année prochaine, donc la rentrée de l'année 2026, nous fonctionnerons encore sur l'ancien collège de Rivière-Salée, qui est devenu l'annexe du lycée Petro-Attit. Pour l'instant, je suis satisfait. On verra à chaque phase. Je veux dire, chaque jour suffit à peine. Et après, on verra si on a les financements pour le rééquipement. C'est surtout ça, la reconstruction, la rénovation. On a les financements, mais après, il faut le financement pour rééquiper les ateliers, l'internat, la cantine, le bâtiment général. Voilà, il y a tout ça à voir également.
Une visite essentielle pour Naïma Moutchou qui a rappelé que l'État continuera d'accompagner les jeunes afin qu'ils puissent retrouver des conditions d'apprentissage dignes de ce nom.
C'est une nécessité absolue. L'État s'engage pour les jeunes, pour qu'ils puissent retrouver des conditions d'apprentissage qui soit digne de ce nom, parce que c'est quand même l'avenir de ce territoire. Donc oui, l'État sera au rendez-vous, c'est évident. J'avais vu quelques images, celles qui ont tourné, comme vous le savez bien, mais de visu, c'est toujours très impressionnant. Et puis on est longtemps après les émeutes, mais c'est partout. C'est partout dans les bâtiments, c'est partout dans les structures. Et donc on voit bien la violence, oui, de ce qu'ont été les émeutes.
La ministre des Outre-mer a pu visiter les différents ateliers du lycée Petro-Attiti, plomberie, électricité, maçonnerie et peinture, l'occasion d'échanger avec les enseignants et les élèves. La ministre des Outre-mer qui a rencontré ce matin également les maires de Calédonie, 23 d'entre eux ont honoré leur rendez-vous et chacun des maires présents a pu prendre la parole et revenir sur les difficultés qu'ils rencontrent. C'est le cas de Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires, également maire de Bouloux-Paris.
On lui a fait part des difficultés des communes, bien sûr. D'abord, on a remercié la ministre pour l'aide qui est attribuée en cette fin d'année par l'État aux communes et qui va permettre de prendre en charge les cantines scolaires, le transport scolaire, des actions pour la jeunesse qui sont importantes, qui vont permettre aux communes de terminer l'année correctement. Mais surtout, on s'est inquiété de l'année 2026, puisqu'aujourd'hui, donc, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie annonce des baisses de recettes budgétaires une nouvelle fois pour 2026. Donc, on s'attend à ne pas pouvoir être aidé à la hauteur de nos dépenses par le gouvernement. Donc, l'État est seul à pouvoir nous aider pour l'année 2026. On l'a fait savoir à la ministre et on espère pouvoir être aidé une nouvelle fois de façon à pouvoir remplir toutes nos obligations sur l'année 2026.
Un discours similaire du président de l'Association des maires, Florentin Dédane, qui est aussi maire de Puebo. Il espère que la ministre des Outre-mer va entendre leurs doléances. Il a trouvé Naïma Moutchou à l'écoute.
On va dire qu'elle est à l'écoute des communes, des maires, donc on espère que nos doléances seront entendues. C'est vrai qu'il y a une semaine qui attend la ministre au niveau des Outre-mer la semaine prochaine. Donc par rapport à nos demandes, on espère qu'il y a une écoute au niveau de Paris. Ben, nous, concrètement, ça concerne pour pas mal de communes le contrat de développement, où on a perdu pas mal de subventions, hein, pour à peu près plus de 300 millions. Donc on attend une réponse concrète pour essayer de voir comment ils peuvent pallier, parce que sinon les communes l'année prochaine seront en difficulté. Peut-être mis sous tutelle, parce qu'on parle pour certaines communes de plus de 100 millions de subventions d'investissement. Donc voilà des sujets concrets, on attend une réponse.
De son côté, le maire du Monde, Elisabeth Rivière, a profité de cette rencontre pour revenir sur les souffrances des administrés de la commune après les émeutes de l'an dernier.
Elle est très consciente de la souffrance, hein, des Mondoriens, de ce qui s'est passé et de ce blocage pendant 8 mois. Ils sont très attentifs et j'espère que cette attention aboutira sur la participation de l'État sur différents projets. Après, nous connaissons aussi les finances de l'État, nous connaissons la situation aussi complexe politique dans l'Hexagone. Donc nous espérons que tous les projets que nous avons portés pourront, je l'espère, au moins être étudiés et trouver une issue favorable. Et
on se souvient que la ministre des Outre-mer avait annulé la visite qu'elle devait effectuer au Mont d'Or Sud mercredi. Mais ce matin, son conseiller spécial, Juan Diaz del Cano, a reçu une délégation de l'association Citoyen Mondorien, conduite par son président Florent Perrin.
Ce matin, on a entendu la ministre sur RRB qui a évoqué la problématique du Mont d'Or et nous sommes ravis de ce qu'elle a dit, ce qui nous a été confirmé à ce rendez-vous. Pour la première fois, un ministre étudie la question du pont du Mont d'Or et c'est une grande première pour nous, c'est un grand pas. L'État, enfin, travaille sur la seule et unique solution pour nous sortir de là où on est. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes sécurisés par 200 gendarmes sur la route. Ça coûte 300 millions par mois. On en est à plus de 3 milliards depuis un an. Donc à un moment, il faut qu'il y ait une solution qui émerge. Alors oui, il faut garder les gendarmes tant que le pont ne sera pas avancé parce qu'il faut nous sécuriser. Mais en même temps, il faut faire avancer un autre projet. On ne peut pas rester comme ça. Il faut que le problème se règle. Et c'est la solution du pont qui maintenant est étudiée par l'État.
Des propos recueillis ce matin par Kalinda Bouakou, la ministre des Outre-mer, qui a terminé sa matinée à la rencontre de la population dans le quartier de Tindu. Sur place, Naïma Moutchou a pu longuement échanger avec les habitants de ce quartier qui a été particulièrement touché par les émeutes insurrectionnelles de mai 2024. Joik Dokunengo est le nouveau président du comité de quartier de Tindu.
On a pu faire part de nos problèmes puis nos projets qu'on voulait faire. Elle entend bien ce qu'on veut dire, mais elle nous a pas dit des trucs concrets, mais oui, elle entend. On espère juste qu'elle lâche l'argent, quoi.
La ministre qui a également pu rencontrer les responsables des bailleurs sociaux après avoir visité une entrée d'immeuble, mais aussi un jardin partagé. Benoît Naturel est le directeur général de la SIC.
On parle ici de projets de rénovation urbaine, il y a de grands besoins, vous avez pu le constater. Et donc c'est important pour s'en rendre compte. Et puis se rendre compte aussi sur le dialogue avec les habitants, qui n'a pas cessé en fait depuis un certain nombre d'années, puisque toujours avec l'État et la province, il y a des chantiers d'insertion qui ont été menés. La mairie est assez active aussi sur ce quartier-là. Donc on continue tous collectivement à maintenir un lien assez fort, mais vous l'avez vu, le site a quand même besoin d'investissements assez lourds, et donc c'est pour ça que c'était important pour tout le monde, effectivement, de pouvoir le montrer et en parler avec la ministre.
Et à l'issue de cette visite, la ministre des Outre-mer a pu partager avec les habitants un moment de convivialité autour d'un cocktail et de sons de chant interprétés par les mamans du quartier. Actualité judiciaire en bref. Après 3 renvois, le tribunal correctionnel de Nouméa examinait aujourd'hui l'affaire du braquage de la station-service de Coutiot dans la commune de Dimbéa. Les faits remontent au 2 juin dernier. Vers 21h, 6 hommes cagoulés avaient pris l'assaut. La station-service, les malfaiteurs armés de sabres d'abattis et d'une grosse pierre avaient menacé et insulté les employés avant de braquer la station. Ils étaient repartis avec une somme importante, 864 000 francs en espèces et 890 000 francs de cigarettes, ainsi que des cartes téléphoniques. Les jeunes ont été condamnés à des peines allant de 9 mois à 3 ans d'emprisonnement. Les élus du Mont d'Or réunis en conseil municipal cet après-midi avec à l'ordre du jour le débat d'orientation budgétaire pour l'année à venir. Parmi les 11 délibérations, on note également une décision modificative numéro 3 du budget principal. Les élus doivent également discuter de la mise à disposition de l'ancienne école Adolphe Boutan au profit de la chambre de métiers et de l'artisanat. Les échanges ont débuté à 16h30. Le 107e congrès des maires de France débutera lundi prochain. Il réunira une bonne partie des représentants des communes de France. En Nouvelle-Calédonie, certains maires ont choisi d'envoyer une délégation. C'est le cas du Mont d'Or. Le premier adjoint au maire, Jean-Jacques Affchin, s'envolera pour Paris ce soir avec 2 autres représentants de la ville. Le maire de Coumac, Wilfried Weiss, est quant à lui déjà sur place. Le congrès se tiendra du 17 au 20 novembre avec une première journée dédiée justement aux maires d'outre-mer.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. 10 ans après les attentats du 13 novembre, pensez-vous que la menace terroriste islamiste est toujours aussi importante en France? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier. 92% des auditeurs d'RRB qui se sont exprimés par SMS trouvent que c'est une bonne idée d'implanter une antenne du RSMA, le régiment du service militaire adapté, dans le Grand Nouméa. Ils sont donc 8% à ne pas partager cet avis. Il est 18h10, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité festive, l'actualité sportive et l'actualité météorologique. A tout à l'heure.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Savez-vous qu'il faut nettoyer régulièrement les filtres et effectuer au moins une fois par an l'entretien de votre climatiseur? Fermez les fenêtres et portes dans une pièce climatisée pour se prémunir de la surconsommation de l'énergie.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal avec Lionel Sabot.
Et voyons maintenant de quoi sera faite l'actualité festive de ce week-end. Tout d'abord, un vide-grenier pour la bonne cause à retrouver demain à l'hippodrome Henri Millard à Lansvata. Vide-grenier organisé de 6h30 à midi par le Rotary Club Nouméa Ducos Boulari au profit des enfants atteints de déficience visuelle. L'occasion à devenir chiné et de faire de bonnes affaires tout en aidant les personnes en situation de handicap. Les précisions de Jean-Yves Abadès, c'est le président du Rotary Club Nouméa Ducos Boulari.
L'action, celle pour laquelle on organise ce vide-grenier, c'est la formation de techniciens pour la réparation et l'entretien, ce qu'on appelle les machines Perkins. Donc les machines Perkins sont des machines qui écrivent le braille. Il y a 12 machines en Nouvelle-Calédonie et il y en a 4 qui sont HS. Et aucune compétence en local pour les réparer. Donc ça veut dire à chaque fois faire venir un technicien, le coût, le délai, et donc ça pénalise effectivement beaucoup tout ce qui est de la production de l'écriture en braille. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire on va financer la formation de techniciens locaux qui vont être capables. Les recettes qu'on va dégager de la vente des stands, de la petite buvette et de notre quête, c'est pour financer ces 400 000 francs dont je vous ai parlé pour la formation des techniciens pour la réparation des machines Perkins.
Et ce vide-grenier du Rotary Club Nouméa du Cosboulari aura donc lieu demain de 6h30 à midi, c'est à l'hippodrome Henri Millard à Nouméa. Demain soir, ambiance rouge et blanc au fronton basque à Nouméa. L'amicale du Pays Basque et du Sud-Ouest organise sa dernière feria de l'année 2025. Les festivités débutent à 13h avec des jeux basques. La soirée animée par la fanfare Malawi débutera à 19h. L'entrée est payante. À Vaud demain, le crabe sera à l'honneur avant que sa pêche ne soit temporairement interdite. Comme chaque année, la pêche du crabe est interdite du 1er décembre au 31 janvier. Il faut donc en profiter. Au programme de cette fête du crabe, un concours de cuisine, une dégustation de bougna marmite au crabe, un mini-marché et un mini-salon du tourisme. C'est de 8h à 16h. À Nouméa, ce dimanche, le marché de l'art et de l'artisanat au centre culturel Chibaou, bijoux, textiles, vannerie, cosmétiques, peinture ou encore sculpture seront à retrouver de 9h à 16h au CCT. Des ateliers créatifs et des prestations seront également à retrouver. L'entrée est gratuite. Des animations ce dimanche à l'Aquarium des Lagons avec un événement organisé par Sud Tourisme. La structure accueille le petit salon des activités touristiques à deux pas d'ici. C'est de 9h à 18h. Et puis demain sera également la dernière occasion d'assister aux illuminations du phare Amédée pour ses 160 ans. Vous pourrez découvrir cet éclairage depuis la mer si vous avez un bateau. Évidemment, c'est plus pratique en mer, ou depuis les hauteurs du Wentorf. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. C'est à 14h cet après-midi qu'a été effectué le tirage au sort de notre grand jeu chance. Et c'est Christine Dumondor qui a gagné un magnifique cadeau offert par notre partenaire Mobile Mania.
Allô.
Bonjour madame, c'est Lionel Sabot, je suis de Radio Rythme Bleu. Je vous appelais pour savoir si vous aviez joué sur RRB ces derniers jours.
Oui, pour gagner un iPad à Bouville-Bagnan.
Là, je vous appelle sur votre portable, hein, c'est ça?
Oui.
Ouais, il fonctionne bien votre portable?
Très bien.
Mais si je vous disais que vous pouviez le changer contre un iPhone 16?
C'est vrai?
Bah oui, c'est vrai, vous êtes la grande gagnante.
Oui, ça me fait plaisir. Mais oui, c'est un très bon cadeau. Merci. Je suis trop contente. Je suis toute retournée.
Vous allez le garder pour vous ou vous allez l'offrir à quelqu'un?
Ah non, je le garde pour moi. Merci.
Mais bravo à Christine qui remporte donc un iPhone 16 offert par Mobile Mania, cadeau d'une valeur de 119 900 francs. Rendez-vous demain à la mi-journée pour le coup d'envoi d'un nouveau jeu chance. Car vous le savez, sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu. Allez, ouvrons l'agenda sport du week-end en Calédonie. L'événement phare de votre congé de fin de semaine sera bien évidemment du football avec le 7e tour de la Coupe de France. C'est demain que l'AS Magenta affronte le FC Mulhouse. Les Alsaciens actuellement en National 3 sont arrivés sur le territoire dans la nuit de mardi à mercredi avec dans le viseur la victoire. Il faudra toutefois l'emporter contre les champions de Calédonie. Le capitaine de l'AS Magenta, Jean-Claude Yoigné, croit en ses chances de qualification.
On est prêt pour aller chercher la victoire. Début de match, ça va être très difficile, comme ça fait un mois et demi qu'on n'a pas joué. Ça va être dur. Il faut vouloir, il faut aller les chercher. Mais on y croit, il faut tout donner. Quoi.
Et l'AS Magenta est le seul club de Nouvelle-Calédonie à avoir passé ce fameux 7e tour de la Coupe de France. C'était en 2010 contre Dunkerque, toujours au stade du Madeley. Malheureusement, le parcours des Calédoniens avait été stoppé par le Paris FC au tour suivant. L'équipe souhaite donc réitérer l'exploit pour la deuxième fois de son histoire. Pierre Wadjoka, coach de Magenta, a déjà réfléchi à la stratégie à adopter.
Il faut être combatif, il faut être compétitif. Quand on fait de la compétition, il faut avoir un état d'esprit de vainqueur pour passer ces matchs à couper. Il n'y a pas de rattrapage. Les joueurs, ils sont prêts. Jouer ce genre de match, c'est ce qu'on attend toute l'année. C'est très bien que dans le football, il n'y a pas de sauce exacte. Hein. Un exemple, on dit, ils jouent en 3-5-2. Après, peut-être le jour du match, ils vont changer. Ils vont jouer en 4 parce que vous avez un blessé. Il faut quand même un peu de vidéo, un peu de stratégie sur le terrain. Il faut un peu de tout, un peu beaucoup d'ingrédients. Mais je suis focalisé aussi sur des joueurs. S'il y a 2-3 bons joueurs dedans, je dis oui, voilà, lui, fais attention à lui, fais attention à lui, parce que les bons joueurs, fais très attention.
4000 personnes sont attendues demain à 15h au stade du Madeley. Les billets seront au prix de 300 francs. Un engouement qui dépasse les frontières puisque le match sera également retransmis en direct au stade de Lille à Mulhouse. Un événement qui va rassembler des milliers de personnes, c'est demain sur le domaine de Déval, la 21e Shell Pacific Méga Rondo. 702 participants sont attendus sur les différents parcours. On prend maintenant la direction du phare à Médé à l'occasion de son 160e anniversaire. Est organisée la Blues Cup Race, un événement incontournable depuis 15 ans qui rassemble les amateurs de sport de glisse, nautique et de voile. La course entre le phare à Médé et l'Ansvata aura lieu dimanche matin dès 9h30. En mer toujours, championnat de Nouvelle-Calédonie de windsurf et wingfoil freestyle qui devait se dérouler le week-end dernier aura finalement lieu demain à la Côte Blanche. Demain également sera organisé le championnat de Calédonie de Vaha V3 mixte avec au départ du Wharf RFO. Ouvrons à présent l'agenda sport du week-end en métropole et dans le monde. On va commencer avec du rugby à la suite des test matchs internationaux. Et après sa défaite il y a une semaine devant l'Afrique du Sud, l'équipe de France devra se reprendre dimanche matin. Pour nous, les hommes de Fabien Galthié rencontreront les Fidji. Coup d'envoi de la rencontre dimanche à 7h10 heure de Nouméa. À suivre également ce week-end, Angleterre-Nouvelle-Zélande et Irlande-Australie. Au chapitre sport-co encore du football avec la suite des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Après s'être qualifié ce matin après une victoire 4-0 sur l'Ukraine, l'équipe de France jouera son tout dernier match de qualif lundi matin pour nous. Les Bleus seront en déplacement en Azerbaïdjan. Un rendez-vous de sport mécanique également avec ce week-end le tout dernier Grand Prix du championnat du monde de MotoGP. Pour cette dernière sortie de la saison, pilotes et écuries se retrouveront en Espagne pour le Grand Prix de la communauté de Valence. Et puis je vous signale cette nouvelle émission qui vient d'enrichir la grille de Radio Rythme Bleu chaque dimanche à 19h. RRB vous propose une nouvelle émission grâce à Europe 1, notre radio partenaire. Il s'agit d'un entretien de près d'une heure avec Philippe Devilliers, interrogé par Elliot Deval, qui permet de passer en revue les actualités marquantes de la semaine. Face à Philippe Devilliers, c'est désormais écouté sur Radio Rythme Bleu tous les dimanches soirs, juste après le flash de 19h. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, un voile de nuages élevé gagnera progressivement l'ensemble du ciel. Il sera doublé de nuages bas sur les pointes nord et sud, ainsi qu'à Belep, l'île des Pins et Marais. L'alizée de sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds, mais se fera plus léger, autour de 5 à 10 nœuds sur la côte ouest. Les températures resteront fraîches, comprises entre 13 et 17 degrés dans l'intérieur des terres, et 18 à 24 degrés le long du littoral. Demain matin, le soleil s'imposera largement, c'est un petit peu prévu pour tout le week-end, notamment sur la côte ouest et au Loyauté, parfois voilé par quelques nuages d'altitude. Ailleurs, les nuages seront un peu plus nombreux et quelques gouttes ne sont pas à exclure sur l'extrême nord-est du pays. L'alizée de sud-est restera présent entre 10 et 15 nœuds, avec jusqu'à 15 nœuds de secteur est sur l'extrême nord. Côté marée, pour nos amis les pêcheurs, la mer sera basse ce soir vers 22h20 avant de remonter dans la nuit pour un plein niveau attendu à 4h23, puis de redescendre demain matin autour de 10h15.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec le journal de la rédaction d'Europe 1. 18h30, Romain Desarbres recevra Charles Rodwell, député Ensemble pour la République des Yvelines et membre de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.